Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Voilà, la première lecture, 2 Rois 19, versets 10 à 19. Alors il envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Que ton Dieu en qui tu te confies ne t'abuse pas en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays. Ils les ont voués à l'interdit, et toi tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Aran, Retsef et les fils d'Éden qui sont à Tel Assar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, de Héna et de Iva? » Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Ézéchias pria devant l'Éternel et dit, « Éternel, Dieu d'Israël, qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Écoute les paroles de Sennachérib qui a envoyé le Rabshaké pour l'insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé la nation et leur pays. Ils ont jeté leur dieu au feu. En fait, ceux-là n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous donc de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. » Une deuxième lecture, psaume 14, verset 1er. Au chef de cœur de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions horribles. Il n'en est aucun qui fasse le bien. La lecture suivante, au psaume 19, versets 1 à 4. Au chef de cœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Et encore une dernière lecture. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes.
Si l'oxygène n'existait pas, nous serions morts. Si l'Esprit de Dieu n'existait pas, nous ne comprendrions rien sur Dieu. Je prie donc ce matin qu'il nous éclaire pour que nous puissions comprendre qui est Dieu. Nous commençons ce matin une petite série intitulée « Un point de départ » qui s'appuie sur un livre du même nom de Stuart Olliott, « Un point de départ ». Et comme la préface l'indique, nous ne décrirons pas tous les actes du chemin qui conduisent à la foi, mais nous montrerons simplement quelques points de départ de ce chemin de foi. C'est ça l'idée, quelques points de départ de ce chemin de foi. Et la question du jour, comme vous l'avez entendu déjà, comment pouvons-nous être sûrs que Dieu existe? L'athée dit « Dieu n'existe pas ». L'agnostique dit « on ne peut pas connaître Dieu ». Le relativiste dit « il n'y a pas d'absolu ». Le syncrétiste dit « il faut être tolérant ». et le scientiste dit n'est vrai que ce qui est observable. Comment aborder la question du jour dans un contexte fortement influencé par tous ces courants de pensée? Eh bien, je vais vous donner le menu du jour. Le menu du jour en trois étapes que nous allons voir ensemble. La première étape, c'est l'existence de Dieu peut-elle et doit-elle être prouvée? Ça sera la première question. Elle est double, c'est vrai, mais qu'on va chercher à répondre. Hein. L'existence de Dieu peut-elle et doit-elle être prouvée? Ensuite, en deuxième position, nous allons réfléchir, mais est-il raisonnable de croire en Dieu? Et nous terminerons par un troisième point qui, où on répondra à la question, avons-nous une source fiable pour connaître Dieu? Donc, commençons par cette première question, qui semble quand même importante pour la suite. Hein. L'existence de Dieu peut-elle et doit-elle être prouvée? Alors, je vais commencer par une affirmation très claire. C'est que nulle part dans la Bible, qui se présente comme étant la révélation de Dieu, hein, nulle part dans cette révélation, nous ne trouvons un argument pour essayer de prouver l'existence de Dieu. C'est quand même marquant, ça. Nulle part dans la Bible, nous ne trouvons un argument pour essayer de prouver l'existence de Dieu. C'est un fait. Il est d'ailleurs dit dans Psaume 14:1 que nous avons entendu tout à l'heure, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » L'insensé, selon la parole de Dieu, c'est celui qui n'a pas d'intelligence. Celui qui dit en son cœur, qui cherche à se persuader, qui rejette l'existence de Dieu. En fait, qui ne veut pas croire qu'il y a un Dieu. La science peut prouver ce qui est observable, ce qui est mesurable, ce qui est contrôlable, ce qui fait partie du visible, de la réalité de notre univers. Et c'est son rôle. Mais nous sortons du champ d'action de la science lorsque nous lui demandons de prouver quelque chose qui n'est ni observable, ni mesurable, ni contrôlable, ni visible, mais qui est spirituel. Demander à la science de prouver Dieu, c'est comme si vous demandiez à un homme d'être enceinte naturellement. Dans notre monde imbibé de scientisme, la science fait référence pour tout ce qui... pour tout en fait. Et tout ce qui ne peut pas être prouvé par la science semble douteux, voire franchement une absurdité. On est dans un monde ainsi, en fait. Mais la science est limitée dans son domaine. Le domaine invisible existe et n'est pas du domaine de la science. Ne demandez pas de prouver à la science quelque chose qui n'est pas de son domaine. Elle ne le pourra pas. Et ce qui ne sera pas une preuve que cela n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'un enfant ne voit pas un jouet dans son bac à sable que le jouet n'existe pas dans le magasin. Nous concluons donc qu'étant donné qu'il est hors de son champ de recherche l'existence de Dieu, qu'elle ne peut donc être prouvée par la science. Et donc, la science ne doit pas chercher à prouver l'existence de Dieu. Ça ne fait pas partie de son champ d'investigation. Un autre aspect qui nous montre que nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu nous est suggéré par un texte de la Bible, dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, où il est dit, car, c'est Dieu qui parle, « car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées de vos pensées. » Dieu nous dépasse. Alors, comment un être limité et fini comme nous sommes peut prouver l'illimité et l'infini? Ce serait chercher à prouver quelque chose que nous ne pouvons pas trouver par nous-mêmes. C'est comme si vous demandiez à un nouveau-né de résoudre une équation du troisième degré, qui utilise des nombres complexes, un nouveau-né. Et ensuite de dire que, en fait, les équations du troisième degré n'existent pas parce qu'il ne les connaît pas et il ne peut pas les résoudre. Cette notion que Dieu est infiniment au-dessus de nos pensées a fait dire aux agnostiques que Dieu n'est pas connaissable. Hein? Le fait que Dieu, comme ça, est infiniment au-dessus a fait dire aux agnostiques que Dieu n'est pas connaissable. Et si Dieu ne s'était pas révélé lui-même, ce serait juste. Mais Dieu s'est révélé par la Bible. Nous y reviendrons. Okay, c'est vrai que Dieu est infini. Hein. Il est tellement grand que si que quelque part, par nous-mêmes, on ne peut pas le découvrir. C'est en dehors de nos pensées. Donc les agnostiques disent, on ne peut pas connaître Dieu. Et ça serait vrai s'il ne s'était pas révélé. Mais il s'est révélé, donc ce n'est pas vrai. Par contre, notre limitation nous indique que l'existence de Dieu ne peut pas être prouvée. Et ça nous amène à la deuxième question de ce point. L'existence de Dieu doit-elle être prouvée? Donc je viens de dire qu'on ne peut pas le prouver, scientifiquement. Hein? Donc est-ce qu'elle doit être prouvée? Alors Olliot, dans son livre, dit avec raison qu'à aucun moment la foi chrétienne ne dépend du fait que l'existence de Dieu soit prouvée. La foi chrétienne ne dépend pas du fait que l'existence de Dieu soit prouvée. Comme le fait que vous viviez ne dépend pas de la preuve de l'existence de l'oxygène. Que vous puissiez le prouver ou non, ça ne change pas le fait. Si vous n'en avez pas, vous mourrez. L'existence de l'oxygène est un fait, comme l'existence de Dieu en est un. La Bible dit simplement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je donne quelques exemples. Hein. Deutéronome 4, 35. « Tu as donc été éclairé pour reconnaître que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre que lui. » Ou encore dans 1 Timothée 2,5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. » Ou encore dans 1 Corinthiens 8,6, « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toute chose, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Ou encore dans Jacques 2, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. » Dieu se présente comme étant le seul Dieu. Quand lui-même parle de lui-même, il le fait aussi. Hein, Deutéronome 32, 39, « Maintenant donc voyez que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu après moi. Moi je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, personne ne délivre de ma main. » Et il l'a dit après la délivrance d'Égypte. Donc ils ont pu voir de leurs yeux ce qui s'est passé. Ou dans Ésaïe 43, versets 10 et 11. « C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyiez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. » L'existence de Dieu doit-elle être prouvée pour que Dieu existe? Non. Non. Rappelez l'oxygène. Pas besoin de prouver qu'elle existe pour qu'elle existe. D'ailleurs, même les mathématiciens le disent à leur manière. Gödel a dit, je simplifie, « Un énoncé peut être vrai et rester définitivement indémontrable. » Ça peut être vrai, mais indémontrable. D'ailleurs, à ceux qui veulent absolument une preuve que Dieu existe, nous pouvons aussi les mettre face à leurs responsabilités. Pourquoi devrions-nous travailler à leur place? Demandons-leur de prouver raisonnablement que Dieu n'existe pas. Et certains s'exclameront, d'ailleurs comme un écrivain du XVIIe siècle, « L'impossibilité où je suis de prouver Dieu, de prouver que Dieu n'existe pas, me fait découvrir son existence. » L'impossibilité où je suis de prouver Dieu, de prouver que Dieu n'existe pas, pardon, me fait découvrir son existence. Donc le fait que je ne peux ni ne dois prouver l'existence de Dieu n'enlève pas le fait que Dieu existe. Donc c'est une question qui ne devrait pas nous perturber. Par contre, cela ne m'enlève pas le fait de ne pas devoir prouver m'enlève un poids. Un poids qui peut être insupportable de devoir tout expliquer, de tout connaître, d'être omniscient. En fait, cela m'enlève la charge d'être Dieu. Le fait que l'on ne peut le prouver n'enlève pas le fait que l'on ne peut l'ignorer, par contre. Alors, est-ce que ça signifie que croire en Dieu est un suicide intellectuel? Croire que Dieu existe, est-ce raisonnable ou est-ce en dehors de toute réflexion logique saine? C'est ce qu'on va voir dans notre prochain point, qui s'intitule « Est-il raisonnable de croire en Dieu ?» Alors, si nous ne pouvons pas prouver que Dieu existe, de nombreux indices nous témoignent de sa réalité. Si on ne peut pas prouver que Dieu existe, de nombreux indices nous témoignent sa réalité. On va en voir quelques-uns. Alors vous me pardonnerez que je ne peux pas faire le tour. Mais on prend quelques points qui me semblent utiles pour nous. Le premier, la création. Nous avons lu en introduction le psaume 19, qui indique que Dieu se révèle lui-même sans parole. Vous avez déjà entendu les nuages parler ? Et pourtant, ils vous parlent. Mais ils n'utilisent pas des mots. Ok ? Ou encore dans Romains 1:20, vous connaissez ce texte, Romains 1:20, 21, où il a dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Quand on observe la nature, la complexité des créatures nous informe qu'il y a un architecte divin qui a mis en place ces mécanismes qui ne peuvent pas se mettre ainsi en place ensemble par hasard. En fait, croire que tout ce que nous voyons dans la nature est le produit du hasard n'est pas très raisonnable. C'est plutôt une croyance en la toute-puissance du hasard non ordonné. C'est pas de la raison. Les lois de la nature, observables par la science, qui ne semblent pas changer, manifestent un ordre, une structure, un plan. Croire que le chaos peut produire cet ordre n'est pas très raisonnable. C'est plutôt un saut dans le vide. Si nous parlons quelques secondes de l'ADN, qui informe et programme le comportement des cellules, cela indique qu'il y a une intention même dans chacune de nos cellules. Croire que ce qui permet à l'ADN de donner des informations et de programmer les cellules est apparu par hasard n'est pas très raisonnable. Ce sont des milliards d'informations concordantes qui devaient apparaître en même temps. Même en observant quelques instants les êtres humains, il est possible de se rendre compte qu'ils cherchent un sens à leur vie. Et s'ils n'en trouvent pas, ils cherchent à remplir ce vide. Et nous pourrions continuer longuement sur le sujet de la création, qui manifeste les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Mais je veux simplement dire de ce premier indice qu'en croyant que Dieu existe et qu'il a créé ce monde, cela explique facilement la cause du commencement de l'univers et de la vie. Pourquoi le monde si complexe peut être ainsi et continuer à exister? Pourquoi il y a des lois de la nature? Pourquoi il existe un ADN qui informe et programme le comportement des cellules? Pourquoi l'homme cherche un sens à sa vie? Cela est plus raisonnable que de ne pas croire en Dieu. Deuxième indice. L'existence de la raison et de la logique. Si tout est venu sans but ni raison par hasard, comme l'ancienne la science moderne, alors pourquoi l'homme fait-il des observations rationnelles et des déductions logiques? L'homme a la capacité de raisonner et d'émettre des opinions réfléchies parce que cette faculté lui a spécifiquement été donnée par celui qui a créé toute chose. On va me dire, mais c'est impossible de le prouver. Mais je réponds avec mon cher frère et ami Olliot qu'il est insensé de croire que des pensées rationnelles peuvent naître d'un monde irrationnel. C'est comme si on disait qu'un framboisier donnera des ananas. Pas facile à imaginer en plus. Donc le framboisier représente le monde irrationnel arrivé par hasard. Et l'ananas, une pensée rationnelle qui cherche à expliquer ce qui s'est passé par des processus logiques. On peut reprendre un texte dans Jacques qui dit justement que ne peut venir que ce qui est en lien avec la nature de ce qui est. Hein? Jacques 3:11, la source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. En fait, en croyant que Dieu existe et qu'il a créé l'homme à son image, cela explique facilement et raisonnablement pourquoi l'homme fait des observations rationnelles et des déductions logiques. Cela est plus raisonnable que de ne pas croire en Dieu. Troisième indice. Le désir religieux de l'homme. Pourquoi trouve-t-on des croyances en Dieu partout dans le monde? Pourquoi avons-nous tant d'éléments communs et tant de différences? En fait, personne n'a vraiment d'explication convaincante sur cet aspect du désir religieux de l'homme. Pourtant, la Bible répond clairement à ces questions. Pourquoi l'homme est-il religieux? Eh bien, parce qu'à l'origine, il a été créé pour jouir de la présence de Dieu. J'aime dire d'ailleurs que nous sommes créés adorateurs. Mais l'homme a rejeté Dieu et il a remplacé le seul vrai Dieu par autre chose. Cela n'empêche pas qu'il continue à être adorateur. Pourquoi l'homme continue-t-il à adorer Dieu ou un Dieu? Parce que son rejet de Dieu n'a pas enlevé la conscience d'un Dieu et la notion d'éternité placée dans son cœur. Certains connaissent ici ce passage dans l'Ecclésiaste, hein, où il est dit « Tout ce que Dieu a fait est beau en son temps, et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. » On ne peut pas saisir, mais il a mis en nous la pensée de l'éternité. On ne peut pas l'expliquer en dehors de croire que Dieu l'a fait. Pourquoi l'homme a-t-il inventé tant de religions? Eh bien, parce qu'il cherche à gagner la faveur de Dieu. C'est ce qui explique les points communs de toutes les religions inventées par l'homme. Alors, pourquoi tant de religions différentes? Eh bien, parce que l'homme s'acharne à adorer comme il l'entend, pas comme Dieu le Créateur le demande. Donc, en croyant que Dieu existe et qu'il a créé l'homme pour jouir de sa présence, mais que l'homme l'a rejeté, cela explique facilement et raisonnablement pourquoi l'homme a des désirs religieux. Cela est plus raisonnable que de ne pas croire en Dieu. Un quatrième indice, un dernier pour ce matin. L'existence de la conscience en l'homme. Pourquoi y a-t-il une notion de ce qui est bien et de ce qui est mal? Pourquoi la conscience de tous, de manière générale, est d'accord de dire, par exemple, qu'il est détestable de se faire insulter par mes enfants? D'accord, hein? Il faut protéger la vie de ceux qu'on aime si leur vie est menacée. Il est insupportable que mon conjoint me trompe. Il faut poursuivre celui qui m'a volé quelque chose, évidemment. J'aimerais le retrouver. Hein? Et il est inacceptable qu'on me dise des mensonges, quand même. Il est même exécrable que les autres convoitent tout ce que j'ai, quoi. C'est pas très sympa. En fait, la Bible nous donne une explication claire. Il s'agit de la loi de Dieu qu'il a inscrite dans le cœur de l'homme lorsqu'il l'a créé. Vous trouverez dans Exode 20 et Deutéronome 5, les 10 commandements qui reprennent en fait les différents points que je vous ai présentés tout à l'heure, que l'on trouve dans les consciences de tout le monde. En croyant que Dieu existe et qu'il a inscrit sa loi dans le cœur de l'homme, cela explique facilement l'existence de la conscience qui s'accorde universellement. Cela est plus raisonnable que de ne pas croire en Dieu. Et on pourrait continuer, comme je vous l'ai dit, avec les indices. On pourrait parler des faits historiques, comme celui que nous avons entendu dans 2 Rois 19. Car Dieu a répondu à Ézéchias, Sennachérib fut vaincu. C'est des choses qui se sont passées. On pourrait parler de toutes les réponses aux prières, enfin, etc. Toutes ces choses qui manifestent qu'il est plus raisonnable de croire que Dieu existe que de ne pas croire en Dieu. Donc la deuxième question que nous avions, est-il raisonnable de croire en Dieu? J'espère avoir fait cheminer nos pensées pour répondre clairement oui. La dernière question de ce matin, parce qu'en fait, souvent, j'ai fait référence à la Bible. Mais est-ce que la Bible est fiable pour nous parler de Dieu? Et c'est la dernière question de ce matin, avons-nous une source fiable pour connaître Dieu? La Bible prétend être la révélation de Dieu, un écrit de sa part pour se faire connaître. Est-elle vraiment capable de nous parler de Dieu? Alors, on va un peu reprendre des choses qu'on a vues ce matin. On a vu que la Bible nous explique que l'homme est religieux. Et pourquoi nous pouvons, et nous pouvons le vérifier. Les hommes sont religieux. La Bible le dit. En fait, la Bible nous parle de certains domaines que l'on peut vérifier qui sont vrais. Nous avons vu que la Bible parle de la raison, que l'homme a une conscience et qu'elle est semblable partout dans le monde. Nous pouvons le vérifier et y réfléchir. Elle nous parle de domaines vérifiables qui s'avèrent être en harmonie avec la réalité. Comment vous pourriez expliquer les actes de sacrifice de soi, de bienveillance, ainsi que les atrocités et les méchancetés qui se rencontrent non seulement parmi les êtres humains, mais parfois même dans la même personne? Seule la Bible explique l'homme adéquatement et nous donne une image qui correspond exactement à ce que nous voyons. L'homme a été créé à l'image de Dieu en communion avec lui, ce qui lui donne des qualités affectives et intellectuelles. Mais l'homme corrompu par le péché a des actions ou des actes qui expliquent, donc le péché explique ces actes égocentriques et méprisables. La Bible donne une explication claire de l'homme, de ce que vous voyez. Il n'y a pas de contradiction entre ce que la Bible enseigne et la réalité de l'homme. Et si la Bible est exacte concernant l'homme, pourquoi ne serait-elle pas exacte concernant Dieu? Pour mieux comprendre que la Bible est une source fiable pour connaître Dieu, on va voir deux illustrations. C'est l'illustration du plan et du puzzle. Alors le plan d'abord. Imaginez-vous que quelqu'un vous téléphone et dit « Je veux venir à l'église dimanche ». Il vient en train et vous lui envoyez un plan pour qu'il puisse venir ici. Mais en fait, il n'utilisera jamais ce plan parce que vous allez le chercher à la gare. Sympa ça, hein? Vous allez avec votre voiture, hop, à la gare. Et quand vous allez à la gare, vous allez venir avec la voiture jusqu'ici. En chemin, vous allez croiser, alors si vous prenez ce chemin-là, vous allez croiser le magasin Denner, le restaurant la Croix Verte, puis Aldi. Hein, puis après, vous arrivez ici. Et quand vous le ramenez à la gare, vous faites le chemin inverse, le même chemin, et il reverra les mêmes lieux, bon, dans l'ordre inverse. Ça va? Okay. Maintenant, il est dans son train, reparti. Et il pense à votre plan. Il le prend et il voit qu'en fait, vous avez pris un chemin, donc il voit le chemin, et que ces différents lieux sont indiqués sur la carte. Il dit, ah mais cette carte, elle est fiable. Et il dit, ah mais attendez, il y avait un autre chemin là. On pourrait passer par un autre chemin, puis ce chemin est passé par le parking du Seillon, la maison de la police, et puis le cimetière. Est-ce que la personne qui regarde son plan mettra en doute qu'il y a le parking du Seillon, la maison de la police et le cimetière? Ben non. Il était lui-même dans les lieux où il a pu vérifier donc le chemin. Il se dit, ben, l'autre chemin, il est valable également. De même, nous pouvons vérifier ce que la Bible dit dans certains domaines, comme ce qui concerne l'homme par exemple, et nous verrons que c'est un plan fiable. Pourquoi est-ce que nous mettrions en doute les parties dont nous n'avons aucun moyen de contrôle? Sur quelle base pouvons-nous supposer qu'elle se trompe lorsqu'elle parle d'un Dieu qui existe? La Bible est fiable quand elle parle des domaines que nous pouvons vérifier. Elle est donc aussi fiable pour les domaines que nous ne pouvons pas vérifier. Et elle nous parle d'un Dieu qui existe. L'illustration du puzzle, c'est la même notion, mais avec une autre illustration. Vous allez dans votre grenier. Oh, les vieux greniers, hein, vous savez comment c'est les vieux greniers, plein de poussière, plein de choses très intéressantes à découvrir, et vous tombez sur un tas de pièces de puzzle. Oh, vous aimez faire les puzzles, c'est génial. Donc vous prenez ces pièces, vous commencez à les mettre ensemble, et qu'est-ce qui se passe? Vous avez la moitié de l'image. C'est frustrant. Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Ben vous cherchez les autres pièces dans ce grenier. Hein, et vous cherchez, et qu'est-ce que vous allez trouver? Oh, une boîte en carton. Et il y a une image sur cette boîte en carton. Et c'est quand même assez incroyable, parce que l'image que vous avez pu faire avec vos puzzles correspond à une partie de cette image en carton. Donc le fait que vous ayez trouvé ce carton, en fait, vous permet de comprendre toute l'image. Puis vous avez parfaitement confiance, pourquoi? Parce que la partie que vous avez pu reconstituer avec votre puzzle correspond exactement à une partie de l'image. Donc l'autre partie, c'est donc l'autre partie du puzzle. En observant le monde qui nous entoure, nous construisons une image de l'homme. Cette image correspond exactement à la description de la Bible, même si parfois les pièces sont parfois presque effacées, c'est vrai. Nous n'avons pas les pièces pour construire l'image de Dieu. Aucun moyen de savoir à quoi il ressemble. Ces pièces sont d'un autre monde. Mais nous avons la boîte avec l'image, la révélation de Dieu, la Bible. Ollyett dit, l'enseignement de la Bible sur l'homme correspond exactement à ce que nous voyons. Nous ne doutons pas que l'image qu'elle donne de Dieu, elle, est aussi adéquate à la réalité, bien que nous n'ayons aucun moyen de vérifier par nos propres yeux. Il est donc tout à fait raisonnable de croire qu'avec la Bible, nous avons une source fiable pour connaître Dieu. La Bible nous assure que Dieu existe. Elle nous le fait connaître. Elle nous parle de la manière dont il se fait connaître dans l'histoire. Elle parle de ses promesses, de ses menaces. Et le centre, le héros de la Bible, c'est qui c'est ? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Jésus-Christ, Dieu manifesté aux hommes. Elle nous dit que Dieu est connaissable. C'est une personne avec qui il est possible d'entrer en relation. Et un message central des Écritures consiste à expliquer comment ceux qui étaient éloignés de Dieu peuvent à nouveau marcher avec lui. Ça, c'est un message central de la Bible. Expliquer comment ceux qui étaient éloignés de Dieu peuvent à nouveau marcher. Voici ce qui est dit dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 et 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Dieu s'est manifesté sur terre en Jésus-Christ et il est venu jusqu'à nous et a montré jusqu'où allait sa justice. Le juste jugement a été rendu. Dieu est juste, il l'a appliqué. Le fait qu'il est venu à nous et tout ce qu'il a accompli a montré jusqu'où allait son amour. Il a payé de sa vie, il s'est donné totalement. Et cela nous montre aussi jusqu'où allait sa puissance. Il est capable de devenir un homme en restant Dieu. C'est seulement le vrai Dieu qui est capable de faire ça. Et ce Dieu qui est devenu homme, Jésus-Christ, manifeste qui est Dieu. Il est dit dans Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Comment pouvons-nous être sûrs que Dieu existe ? C'était la question de départ et j'aimerais y donner une réponse. Comment être sûr que Dieu existe ? Eh bien, nous pouvons être sûrs que Dieu existe en le rencontrant. Nous pouvons être sûrs que Dieu existe en le rencontrant. Dieu, qui est inatteignable par notre intelligence, s'est montré par sa création. C'est un moyen de voir qu'il existe. Il s'est fait connaître par sa révélation, par la Bible, où il nous parle de lui, il nous parle de nous. Et il est venu jusqu'à nous par son incarnation en Jésus-Christ. Et Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et on peut être fatigué et chargé de ces questions, est-ce qu'il existe, etc. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il a aussi dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Aucun risque. Il n'y a pas de risque de s'approcher de Dieu qu'il nous mette à la porte. Celui qui s'approche de Dieu d'un cœur sincère et repentant ne sera jamais mis dehors, jamais. Est-ce que vous voulez être sûr que Dieu existe ? Quelqu'un a dit, et je me joins à lui, « Je crois à la foi chrétienne, pour aussi parler de Dieu, comme je crois que le soleil se lève, pas seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Et il en est de même de Dieu. » J'aimerais terminer par la prière. Parler à ce Dieu qui existe vraiment maintenant. Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous permets, par ta grâce, de voir au travers des indices que tu nous as mis dans ta parole, que tu es réel. Nous sommes par exemple dans l'année 2017 après Jésus-Christ. Il est venu sur cette terre, il a marqué l'humanité. C'est une réalité, un indice qui nous montre que tu es réel. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu n'as pas laissé l'homme dans une situation où il devait lui-même trouver qui tu étais. Il n'en était pas capable. Nous sommes limités, nous n'avons pas cette possibilité. Mais tu t'es révélé à nous. Merci Père. Et nous te prions de nous aider à ne pas prendre cette charge de jouer à Dieu. De chercher à vouloir tout expliquer des choses qui sont en dehors du champ de notre connaissance et de nos compétences. Toi, tu es illimité. Il est bon de pouvoir se confier en toi. Nous sommes aussi conscients que si tu te révèles, cela nous met aussi dans une situation où nous comprenons que si vraiment tu es là, si vraiment tu existes, c'est qu'on ne peut pas t'ignorer. Et si tu nous as vraiment fait, eh bien on doit te rendre des comptes. Seigneur, j'aimerais te prier que cette pensée ne soit pas une pensée qui nous écrase et qui nous éloigne de toi, mais que ce soit une pensée qui nous permette de nous voir tels que nous sommes et que nous puissions recevoir ce beau message de l'Évangile, comme nous en avons déjà parlé aussi dans ce beau chant de « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils ». Oui Seigneur, tu ne nous as pas laissés dans cette situation où nous pourrions être culpabilisés pour l'éternité, mais tu nous donnes cette grâce de pouvoir regarder à Christ qui est venu parmi nous pour porter nos fautes, pour que nous puissions être libérés du péché. Seigneur, merci pour cette grâce et j'aimerais te prier que le fait que nous comprenions que tu existes nous remplisse de joie, de reconnaissance, de paix et d'émerveillement. Nous avons chanté ce matin que tu es grand, que le chant des oiseaux, comme nous les entendons maintenant, nous rappelle qui tu es. Eh bien, Seigneur, permets que cette semaine, nous puissions continuer à nous en souvenir. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.